Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en Terre de Couleur. Une émission réalisée par Corinelle. En Terre de Couleur vous propose de flâner sur les traces d'un peintre à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane, et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en Terre Limousine. Bienvenue chez Pierre-Auguste Renoir, peintre français, Limoges 25 février 1841, Cagnes-sur-Mer 3 décembre 1919. Après ces périodes de découragement et de doute dans ses recherches picturales, Renoir a enfin trouvé son style en adoptant une manière de peindre dite nacrée. Nous le retrouvons maintenant en 1894, une année de tristesse et de joie.
L'affaire Caillebotte.
En effet, cette année-là, en février, son ami le peintre et collectionneur Gustave Caillebotte décède et l'a nommé exécuteur testamentaire. Renoir est donc chargé de s'occuper du legs de Caillebotte à l'État, représentant 67 œuvres impressionnistes et 2 dessins de Millet. Devant les réticences haineuses et violentes de l'Académie des Beaux-Arts, des politiques, seulement un peu plus de la moitié des toiles du legs Caillebotte seront acceptées au musée du Luxembourg. 6 tableaux de Renoir sur 8 sont retenus, dont le bal du Moulin de la Galette, étude, torse de femme au soleil, la balançoire, pour ne citer qu'eux. Beaucoup de tableaux iront aux États-Unis, ce qui deviendra par la suite le scandale Caillebotte. Selon le vœu de son ami, il peut choisir un tableau pour lui. Il gardera la leçon de danse de Degas, qu'il vendra en 1898 contre un corot, entraînant alors le courroux de Degas et leur rupture. Le peintre académique Jérôme s'écrit entre autres.
« Pour que l'État ait accepté de pareilles ordures, il faut bien une grande flétrissure morale !»
Voyage en Terre de Couleur, Pierre-Auguste Renoir.
Le 15 septembre 1894, né à la maison, le second fils de Renoir, Jean, qui deviendra le grand cinéaste que nous connaissons. Renoir refuse qu'Aline accouche dans une clinique.
Ouvrir les yeux pour la première fois sur un mur peint au Ripolin, quelle déveine!
Pour l'aider, Aline fait venir une jeune cousine de son village natal, Gabrielle Renard, âgée d'une quinzaine d'années. Plantureuse, de large carrure, une longue chevelure, et ayant la peau prenant bien la lumière, elle va servir de gouvernante à Jean et de modèle à son père pendant les 20 ans qu'elle va rester à leur côté. Elle va poser seule ou en présence des enfants, Pierre, Jean ou Claude. Renoir va la peindre habillée, à demi-nue ou dévêtue. Nous la retrouvons dans Gabrielle au sein nu, Gabrielle aux bijoux, dans plusieurs tableaux des baigneuses, et bien sûr avec Jean, dont Gabrielle et Jean, entre autres. Elle prépare la palette de Renoir, repousse les visiteurs indésirables. À Cagnes, elle mettra même à la porte le préfet du Var qu'elle a pris pour le garde champêtre. À la maison, les servantes peuvent servir de modèles, et les modèles faire du repassage, de la couture. Une autre femme servira de modèle à Renoir après Gabrielle, Marie Dupuis, dite la boulangère, car elle faisait admirablement les pommes de terre frites. De teint clair, voluptueuse, de taille moyenne, elle fut, elle aussi, un modèle idéal. Renoir va utiliser des modèles professionnels jusqu'à la fin de son œuvre, à l'exception de Gabrielle. Les nus qu'il va peindre, de façon plus nacrée, plus soyeuse, vont s'inscrire dans une série intitulée « Baigneuse ». Baigneuse debout, baigneuse endormie, baigneuse aux cheveux longs. Tous ces tableaux représentent le corps féminin épanoui, doté de formes opulentes, à la chair nacrée.
Voyage en Terre de Couleur.
En 1896, Renoir perd sa mère, âgée de 89 ans, qui vivait à Louveciennes avec sa sœur Elisa et son frère Victor. Il achète une maison à Issoailles, village natal d'Aline, pour s'y retrouver tous les étés. La nièce du peintre Manet, Julie Manet, fille de Berthe Morisot, son amie, y sera invitée en 97-98. Le peintre lui donnera même des cours de peinture.
Paul Durand-Ruel, le marchand d'art.
Il expose de nouveau chez Durand-Ruel. Paul Durand-Ruel, devient très tôt un soutien financier pour Renoir, qui lui en fut reconnaissant en lui achetant des œuvres. Il sut créer une demande étrangère en organisant des expositions, en utilisant les critiques ou en s'unissant à d'autres galeries. Renoir fit une série de portraits des 5 enfants du marchand de tableaux, dont portrait de Charles et Georges Durand-Ruel. Leur relation fut tellement remplie d'une sincère amitié que Madame Renoir demanda à Georges d'être le parrain de Jean. Bernheim Jeune et Ambroise Vollard, autres marchands, faisaient partie aussi de la famille et étaient considérés comme des amis.
Renoir était-il d'une santé robuste ?
Malheureusement, non. Reconnu dans son art, satisfait de sa vie privée, Renoir aurait pu finir sa vie heureuse, si ce n'est sa santé qui commença à le tourmenter. Il connaît ses premiers rhumatismes en 1888, suite à un refroidissement. Puis, en 1897, il se casse un bras après une chute à bicyclette à Essois dans l'Aube. L'année suivante, se déclenche sa première crise de rhumatisme articulaire, qui progressera inexorablement. Les meilleurs médecins seront impuissants à le soulager, même le spécialiste viennois, dépêché par le marchand de tableaux Bernheim. En 1900, il accepte la Légion d'honneur en tant que chevalier, et 11 de ses tableaux sont présentés à l'exposition universelle. À presque 60 ans, il a le visage ravagé, de plus en plus émacié, atteint de paralysie faciale, la barbe clairsemée, avec 2 petits yeux doux et bons sous des sourcils broussailleux. Le dos est voûté par la pratique de se pencher sur le chevalet. Ses mains sont déformées. Il marche difficilement. Il s'est installé rue de la Rochefoucauld et passe ses hivers dans le Midi, à Cagnes, Grasse ou au Canet.
En 1901, la famille ne s'agrandit-elle pas ?
Oui, bien sûr. Son 3e fils, Claude, dit Coco, né le 4 août 1901 à Essois. Renoir est un père très attentif envers ses enfants. Il refuse que les planchers soient cirés afin d'éviter les chutes et que l'on coupe les cheveux pour les protéger des chocs. Voir un des très beaux portraits de Claude avec ses cheveux blonds lui balayant les épaules. Lors des séances de pause, Gabriel lit aux enfants les contes d'Andersen afin qu'ils restent immobiles. Il existe un remarquable portrait de Claude intitulé « Le clown » peint dans des tons chauds où domine le rouge chatoyant du costume se détachant d'un fond ocre vert clair, traduisant parfaitement sa période nacrée. Claude gardera un mauvais souvenir de ses séances. En effet, le costume était complété de bas blancs qu'il refusait de mettre car cela le grattait énormément.
Voyage en terre de couleur, Pierre-Auguste Renoir.
La notoriété de Renoir est maintenant bien établie. Il est sans cesse sollicité pour des portraits de la part de la bourgeoisie féminine. C'est ainsi qu'il fait le portrait de Misia Edwards, ou plus exactement une série de 8 portraits. Cette femme, mariée en seconde noce à un homme d'affaires, Alfred Edwards, exerce sur Renoir une attirance particulière. Elle est célèbre dans la vie culturelle parisienne, pianiste, marraine des ballets russes, et connue comme modèle de bien des peintres. Elle invite un soir Renoir à l'opéra, voir Petrushka d'Igor Stravinsky. Madame Renoir se vêt de sa seule robe de soirée. Son mari, trop fatigué, reste en vareuse et casquette à poids. Jean, quant à lui, enfile son uniforme du collège Sainte-Croix de Neuilly-sur-Seine. Alfred Edwards, pas gêné, porte le peintre dans ses bras jusqu'à sa loge, sous les yeux ébahis de la salle. Renoir rentre chez lui tout émerveillé, des couleurs plein les yeux.
Voyage en terre de couleurs.
Renoir a quitté la Rochefoucauld pour un appartement de la rue Caulaincourt, où il peint au rez-de-chaussée. Peu d'invités se pressent le soir autour de la table des Renoir. Seuls les amis, les marchands de tableaux, Durand-Ruel, Bernheim ou Vollard sont acceptés maintenant.
Du côté du musée.
Laissons donc Pierre-Auguste à son chevalet, avec ses fils et Gabriel pour modèle, pour nous rendre en Suisse, admirer un magnifique Renoir de la collection Namad, Léontine et Coco, daté de 1909. C'est un tableau riche en couleurs, où le rouge soyeux de la robe, le noir de la chevelure de Léontine, contraste avec le gris bleuté nacré de la chemise de Claude sur un fond ocre jaune. Nous l'avons déjà mentionné, Renoir n'hésitait pas à prendre pour modèle ses servantes. Quant à Gabrielle, nous la retrouvons au musée de l'Orangerie à Paris, collection Walter Guillaume, dans des attitudes de la vie quotidienne avec les enfants, comme dans Gabriel et Jean de 1895, où l'on observe encore la juxtaposition du rouge de la blouse et le blanc nacré du costume de Jean Bébé. La ville des Soies lui rend hommage puisque nous pouvons admirer son portrait sur un pan d'une maison neuve lorsque nous arrivons en centre-ville. Le Centre culturel Renoir vous invite à la découverte de l'espace des Renoirs à l'atelier du peintre. De l'exposition permanente dédiée à la famille Renoir, aux expositions temporaires, en passant par la boutique, vous flânerez ensuite dans les rues des Soies, petit village de Champagne, pour vous rendre à l'atelier du peintre. Vous y découvrirez un fauteuil roulant, suspendu dans les airs, rappel du courage et de l'attachement de Renoir pour la peinture. Il surplombe la citation inscrite au sol.
« Eh bien, j'aime mieux peindre que marcher. »
À l'étage, quelques objets authentiques, dont une boîte servant pour le transport des tableaux par le train vers Paris. Des lettres d'Aline, entre autres, attendent votre visite. Je vais vous laisser vagabonder dans le jardin attenant à l'atelier du maître, pour y admirer fleurs, plantes vertes et arbres fruitiers. Quant à moi, je retourne dans l'antre du peintre pour vous expliquer comment Renoir peignait.
L'instant pratique, pratique.
Renoir utilisait une palette réduite de 8 à 10 couleurs. Il racontait
« J'arrange mon sujet à mon goût, puis je vois plus loin et je le peins comme un enfant. Je veux qu'un rouge soit sonore pour résonner comme une cloche. Si ça n'y est pas, je rajoute des rouges et d'autres couleurs jusqu'à l'obtenir. Je ne suis pas plus intelligent que ça. Je n'ai pas de règles, pas de méthode. N'importe qui peut inspecter mon matériel ou me regarder peindre. Il apparaîtra que je n'ai pas de secret. »
Le marché de l'art.
Nous ne pouvons pas clôturer notre visite chez Renoir sans parler cotation et adjudication. Voici donc quelques ventes records du maître. Dans le marché de l'art, les maisons de vente Christie's et Sotheby's réalisent la majorité des ventes. Deux fillettes lisant, vendues en mai 1981 à New York pour 11 200 000 francs français. Baigneuse, femme en jupe rouge, vendue en novembre 1985 à New York pour 13 500 000 francs français. En 1990, au Moulin de la Galette, est partie à 71 millions de dollars. La liseuse, en mai 2001 à New York, pour 12 millions de dollars. Généralement, les paysages sont plus abordables. Nous pouvons acquérir des toiles de petit format, de 15 000 à 80 000 dollars. Mais dès que des figures sont représentées, les prix s'envolent. Femme dans un jardin, de 1873, est partie en mai 1993 à 6,1 millions de dollars chez Sotheby's New York, puis en juin 2006 à plus de 8 millions de dollars chez Sotheby's Londres. En moyenne, les dessins ne sont pas vendus au-delà de 100 000 dollars, mais il reste des exceptions. Quant aux sculptures, dont la production fut de moindre importance, elles peuvent être cotées autour de 10 000 dollars, surtout pour les bronzes fondus tardivement. En septembre 2013, a eu lieu à New York une vente aux enchères des effets, objets, souvenirs personnels de Renoir par la maison Héritage pour la galerie Rima Fine Arts, qui avait acheté cette collection en 2005 à l'un des petits-fils de Renoir. Des lettres, photos, plâtres, dessins ont été dispersés aux enchères. Ainsi, des lettres de Renoir à sa femme, à son fils, à Monet, Manet, ont pu atteindre jusqu'à les 16 000 dollars. La sculpture, la Vénus victorieuse, est partie à 445 000 dollars, soit la moitié de son estimation. Quant à la dernière toile de Renoir, les Bécasses, elle est partie à 125 000 dollars. Notre voyage se termine pour aujourd'hui à Issoy dans l'Aube. Je vous invite à le poursuivre très prochainement dans le sud de la France, à Cagnes-sur-Mer, dernière demeure d'Auguste Renoir. Voyage en terre de couleurs, un programme Maurice Clément Fèvre, technique, participation, Pascal Laurière.